Voilà, maintenant je vous invite à passer au temps de message. Et bien entendu, j'ai choisi une histoire avec des personnes affectées par la lèpre, peut-être pas la plus connue. Et le texte que nous allons lire, c'est dans 2 Rois 7, les versets 3 à 10. Il y avait 4 lépreux installés hors de la ville, près de la grande porte. Ils se dirent l'un à l'autre, « Pourquoi restons-nous ici en attendant la mort ?» Si nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons parce qu'on n'y trouve plus rien à manger. Si nous restons ici, nous mourrons également. Descendons plutôt au camp des Syriens et rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, eh bien, nous mourrons. Vers le soir, ils descendirent donc en direction du camp des Syriens. Ils arrivèrent à la limite du camp, mais ils ne trouvèrent personne. En effet, dans le camp des Syriens, le Seigneur avait fait entendre le bruit d'une puissante armée équipée de chevaux et de chars. Les Syriens s'étaient dit les uns aux autres, « Le roi d'Israël a payé les rois des Hittites et des Égyptiens pour qu'ils envoient leurs armées contre nous. » À la nuit tombée, ils s'étaient donc enfuis pour sauver leur vie. Ils avaient abandonné leur camp tel qu'il était, laissant sur place les tentes, les chevaux et les ânes. Les 4 lépreux arrivèrent donc à la limite du camp. Ils entrèrent dans une tente où ils mangèrent et burent ce qu'ils y trouvèrent, puis ils emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher ailleurs. Ensuite, ils entrèrent dans une autre tente et emportèrent divers objets qu'ils allèrent aussi cacher. Mais ils se dirent alors l'un à l'autre, « Ce que nous faisons là n'est pas bien. » Aujourd'hui, nous connaissons une bonne nouvelle et nous la gardons pour nous. Si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, nous serons certainement punis. Allons, nous devons porter cette nouvelle au palais royal. » Ils retournèrent à la ville, appelèrent les sentinelles de la grande porte et les informèrent. « Nous sommes allés au camp des Syriens, » dirent-ils. « Il n'y a plus personne, nous n'avons pas entendu une voix humaine. » Il ne reste que les chevaux et les ânes attachés et les tentes abandonnées. Dans cette histoire, les personnages principaux sont des personnes affectées par la lèpre. C'est un temps où la ville est assiégée, Samarie est assiégée, où la famine règne. En cas de crise, c'est souvent les personnes les plus vulnérables qui souffrent le plus. Et nous le voyons aujourd'hui avec la crise liée au coronavirus. Et nous voyons combien les personnes les plus vulnérables sont les plus touchées. Mais ces personnes affectées par la lèpre, qui sont atteintes d'une maladie qu'on ne pouvait pas guérir à cette époque, qui était encore souvent considérée comme une malédiction, qui ont dû quitter leur famille, vivre à l'écart, en dehors de la ville, eh bien ces personnes ne se laissent pas abattre. Elles ne se laissent pas envahir par le syndrome de Calimero. Peut-être vous vous souvenez de ce poussin noir, héros d'un dessin animé, qui avait tendance à se plaindre, qui trouvait que la vie était vraiment trop injuste. Calimero est devenu le symbole d'une personne qui râle, d'une personne qui se plaint de manière dérisoire. Mais à y regarder plus près, Calimero, à chaque épisode, petit épisode qu'on avait l'occasion de voir, se mobilise et n'hésite pas à bousculer son quotidien pour vivre de fausses aventures avec ses amis. Revenons aux malades de la lèpre. Ils n'ont rien à perdre. Ils décident de se rendre aux Syriens. Leur chance de rester en vie est minime, mais ils la saisissent. De simples passifs, ils deviennent acteurs de ce qui va leur arriver. Alors comprenez-moi bien, peut-être que vous êtes dans une situation difficile, peut-être que vous êtes dans un temps d'épreuve. Je ne suis pas en train de vous présenter la formule magique du grand yaka, du « il faut que ». Non. Mais rappelez-vous, ces 4 malades, ils étaient 4, oui, 4 personnes. Alors si vous êtes dans une situation difficile, entourez-vous d'amis qui peuvent vous encourager. Eux-mêmes se sont encouragés. Au verset 3, il est écrit, ils se dirent l'un à l'autre. Un tout seul, peut-être, il n'aurait pas eu ce courage. Mais à quatre, ils avaient ce courage d'y aller et de se dire, ben, on a une petite chance, mais on veut la saisir vraiment. Et les amis qui vont vous entourer peuvent vous encourager, voire même peut-être vous porter. Souvenez-vous des quatre amis qui ont porté cet homme qui souffrait de paralysie et qui l'ont amené à Jésus. En tous les cas, ne restez pas seul dans la situation que vous vivez. Ces hommes sont arrivés au camp des Syriens. Et là, ils constatent un miracle. Un miracle, c'est un fait inexplicable pour la raison humaine, interprété comme une intervention divine. Oui, Dieu a fait entendre aux Syriens le bruit de grandes armées, de chars, de chevaux. Alors ils ont pris la fuite. Est-ce que j'ai conscience des miracles qui se passent dans ma vie, de l'intervention de Dieu dans ma vie? C'est pas forcément quelque chose de grandiose, d'énorme, mais ça peut être des petites choses. Dieu est là, il est présent dans notre vie. Sa présence, il la manifeste peut-être au travers de personnes qui sont autour de nous, ou peut-être de simples choses. Mais que nous puissions le reconnaître, réaliser qu'il est là, qu'il est présent à nos côtés, quoi que nous vivons. Et dans le psaume 46, verset 11, il est dit « Arrêtez ou soyez tranquilles et reconnaissez que je suis Dieu. » Oui, sachant reconnaître les signes de sa présence à nos côtés. Et peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, c'est difficile. Vous êtes dans une situation difficile. C'est pas évident de le reconnaître. Alors peut-être prenez le temps de vous poser, de vous arrêter, de faire taire les bruits autour de vous et de vous concentrer sur le Seigneur. De prendre conscience qu'il est là, présent, et de lui faire totalement confiance parce qu'il est Dieu, il est votre Dieu. Revenons à notre texte. À un moment donné, ces hommes réalisent qu'ils ont une bonne nouvelle à partager. Alors, quelle est-elle, cette bonne nouvelle? Alors, vous le savez parce que je viens de lire l'histoire, donc vous connaissez la bonne nouvelle qu'ils avaient à partager. Mais si on ne connaissait pas cette histoire, on pourrait peut-être se dire que la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont été guéris. Oui, ils souffrent d'une maladie incurable, ils sont rejetés par leur communauté, par leur famille. Qu'est-ce que Dieu veut leur transmettre? Qu'est-ce que Dieu veut pour leur vie? La guérison, le retour dans leur famille. On peut se dire que cette bonne nouvelle, c'est la guérison. Eh bien non, ce n'est pas ça. Mais avant de parler de la bonne nouvelle, j'aimerais faire une parenthèse. Une parenthèse pour vous parler de comment réagir face à la non-guérison. Alors que nous prions pour une guérison, pour une intervention de Dieu, peut-être dans une situation particulière, et cela n'arrive pas. Comment peut-on réagir? Je crois que Dieu fait des miracles aujourd'hui encore et que Dieu accomplit des guérisons miraculeuses aujourd'hui encore. Mais il ne le fait pas à chaque fois. Et on peut lire dans les évangiles que Jésus n'a pas guéri tous les malades. Si on prend l'histoire de Jésus qui a guéri cet homme affecté par la lèpre, qui est venu à ses pieds, qui lui a dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Juste après, on lit dans Luc 5, versets 15 à 16, « De grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie, mais lui se retirait dans des lieux déserts pour prier. » Jésus n'a pas guéri tous les malades qui l'entouraient. Et puis peut-être que vous connaissez des exemples. J'aimerais juste citer l'exemple de Danisette. Vous vous souvenez peut-être de cette personne affectée par la lèpre qui vivait au Zimbabwe. Ils ont déménagé maintenant en Angleterre pour être plus proches de leurs enfants. eh bien, il a contracté la lèpre quand il était jeune et il en subit les conséquences aujourd'hui encore. Il est guéri de la lèpre, de la maladie en soi, du bacille dans son corps, mais les conséquences, il les vit au jour le jour. Il a dû être amputé d'une jambe. Il a prié plusieurs fois, ensemble même avec son épouse, ils ont prié pour que Dieu intervienne miraculeusement et qu'il le guérisse complètement. Et il a reçu le verset de 2 Corinthiens 12:9 qui dit « Il m'a répondu, ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Oui, parfois, Dieu qui peut toutes choses, le grand Dieu, n'intervient pas de façon miraculeuse pour une guérison. Et suivant la théologie de certaines églises ou de certains responsables, en cas de non-guérison, ils nous donnent assurément une liste de tout ce qui pourrait être fait, de tout ce qui, pour pouvoir identifier le problème. Quel est ce problème? Tu n'as pas été guéri. Eh bien, c'est parce que. Alors, ça peut aller de, en fait, la difficulté de croire vraiment, l'ignorance qui est due à un enseignement insuffisant, le manque de foi, un péché peut-être, où on n'est pas assez déterminé, on n'a pas assez de persévérance. Ce qui me gêne dans cette situation et dans ces éléments où on veut absolument trouver le problème, c'est qu'on veut trouver un coupable. Alors on ne peut pas dire que c'est Dieu. Non, on ne veut pas dire que Dieu est le coupable et que c'est Dieu qui n'est pas intervenu. Alors on pointe du doigt l'Église ou la personne. Mais cela fait beaucoup de dégâts. Et je crois que vraiment, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu intervient encore par des miracles et il opère des guérisons aujourd'hui encore. Mais il ne le fait pas chaque fois. Et souvenons-nous aussi des amis de Job. Quand Job traversait par cette épreuve, il devait traverser cette épreuve, cette situation, ses amis lui disaient « Mais il faut que tu te repentes. Si tout cela t'arrive, c'est à cause d'un péché. » Et nous savons, parce que nous connaissons cette histoire, nous savons que ce n'était pas en raison d'un péché que Job a dû traverser tout cela. Et les accusations de ses amis ne l'ont aidé à pouvoir vivre cette situation. Dans son livre « Maladie et guérison sous le regard de Dieu », Jean-Jacques Mellon considère que la non-guérison peut être porteuse de sens. Alors si vous êtes intéressé à en savoir un peu plus, je vous invite à le lire. Il montre comment la gloire de Dieu peut se manifester par le moyen de guérisons impressionnantes, mais aussi par des non-guérisons pleines de sens. Oui, ce livre peut nous aider à ne pas voir l'absence de guérison comme une accusation de manque de foi, mais plutôt comme une participation, qui est plutôt difficile, d'accord, mais une participation glorieuse et pleine de sens aux souffrances du Christ. Il y a un autre livre que j'aimerais aussi peut-être vous recommander. Le livre écrit par Marjorie Weffler, c'est un livre témoignage « Derrière ton sourire ». En décembre 2014, Silas, alors âgé de presque 6 ans, se met à régresser de façon spectaculaire du jour au lendemain. En quelques mois, il perd la parole, la compréhension, la propreté, ses capacités à jouer et à interagir socialement. Ce livre raconte le deuil d'une famille qui voit son enfant, son petit frère, atteint du trouble désintégratif de l'enfance, cet enfant qui lui échappe peu à peu. L'incompréhension, la panique, puis l'acceptation, la découverte du monde du handicap avec ses peines et ses difficultés, mais aussi ses joies. J'aimerais terminer cette parenthèse par quelques réflexions. Je crois qu'il est illusoire de penser que toutes les maladies vont nous être épargnées. Il est illusoire aussi de penser que la guérison nous est due. Oui, nous devons être guéris. Nous devons être glorieusement guéris de cette situation, sortir de cette situation. Alors la question que Peut-être nous nous posons c'est pourquoi, mais je pense que c'est pas la bonne question. Se demander pourquoi moi, pourquoi ça nous arrive à nous? Parce qu'on pourrait dire mais pourquoi pas nous? Nous vivons dans un monde déchu, ne l'oublions pas. Non, la vraie question c'est comment? Comment dans cette situation? Comment dans cette situation de non-guérison, je peux continuer à glorifier Dieu? Qu'il me donne la force de pouvoir le faire. Alors oui, on peut prier pour des guérisons. On peut lui demander aussi la force de vivre l'épreuve que nous avons à vivre. Mais peut-être qu'à un moment donné, notre prière pourrait être un peu différente. Demander à Dieu de nous montrer si nous devons continuer à persévérer dans cette prière à demander la guérison ou si nous devons lui demander de nous aider à accepter la situation telle que lui veut qu'elle soit. Une épreuve, si elle est acceptée, si elle est vécue dans la présence de Dieu, peut être une source de bénédiction pour des gens autour de nous. Paul Claudel a dit « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. » Oui, Jésus ne nous a jamais promis la facilité, une vie sans épreuve, sans difficulté, mais il nous a promis sa présence tous les jours. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je vous avais promis qu'on allait parler d'une bonne nouvelle, qu'on allait évoquer quelle était cette bonne nouvelle. Souvenez-vous du contexte de l'histoire que nous avons lue, la famine, un siège, ils étaient enfermés dans une ville, ils n'avaient plus rien à manger. Si vous lisez les quelques versets avant, vous voyez qu'ils ont même mangé les chevaux qui leur servaient pour l'armée, pour transporter les soldats. Il ne leur restait que 5 chevaux dans toute la ville. Ils n'avaient plus rien. Les malades de la lèpre ont trouvé des trésors et ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas garder tout cela pour eux. Ils devaient le partager. Ils devaient en parler. Donc pour moi, la bonne nouvelle, c'est d'une part que la prédiction d'Élisée, alors je ne vous l'ai pas lu, c'est dans le verset 1, il disait « Écoutez ce que dit l'Éternel, voici ce qu'il déclare. Demain, à cette heure, sur la place de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de fine farine pour une pièce d'argent et 20 kilos d'orge pour le même prix. » Oui, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, cette prédiction va s'accomplir. Et si vous prenez la peine de lire les versets suivants, j'ai lu jusqu'au verset 10, si vous lisez les versets suivants, vous verrez que ça s'accomplit, qu'il y aura de nouveau de la nourriture qui peut être achetée à bas prix. Donc ça veut dire qu'il y en a en abondance. Dans certaines traductions, il est parlé dans ma traduction que j'ai lue, le semeur, de 10 kilos de fine farine pour une pièce d'argent. Il est même parlé de 12 kilos, voire de 24 kilos d'orge pour le même prix. La bonne nouvelle, c'est aussi ce qu'ont annoncé ces malades de la lèpre. Et nous pouvons le lire et nous l'avons lu dans le verset 10. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici qu'il n'y a plus personne. » On n'y entend aucune voix d'homme. La bonne nouvelle, c'est que l'ennemi a fui. C'est que la ville est libérée. Le camp est vide. Les gens sont libres. Ils ne sont plus assiégés. Et pour nous, quelle est cette bonne nouvelle? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, par sa mort et sa résurrection, a vaincu Satan. Il nous a délivrés de l'esclavage du péché. C'est ça la bonne nouvelle. Dans Jacques 4, les versets 7 à 8, il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Et dans Colossiens 1, les versets 13 à 14, « Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. » Être délivré, ce n'est pas ne plus avoir de problèmes, ne plus souffrir de maladies, ne plus avoir de peur, d'inquiétude. Non, être délivré, c'est recevoir du Seigneur la capacité de vivre ces situations qui ne sont pas évidentes à vivre, mais nous recevons cette capacité de la vivre dans sa présence, tout en le glorifiant. J'aimerais répéter ça parce que pour moi c'est important. Être délivré, c'est recevoir du Seigneur la capacité de vivre des situations qui peuvent être difficiles, mais de les vivre dans sa présence, tout en le glorifiant. En Jésus-Christ, nous avons la vie et la liberté. C'est l'essentiel. C'est ce qui compte le plus pour nous. Et dans Jean 10:10, il est dit « Jésus, le bon berger, est venu pour que ses brebis aient la vie et l'aient en abondance. » Et dans Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Que nous puissions vraiment vivre la vie que nous accorde le bon berger, cette vie faite de liberté, de grâce. Et comme ces personnes affectées par la lèpre, ne gardons pas cette bonne nouvelle pour nous. Partageons-la autour de nous. Amen.